21h passées de quelques secondes, voici votre magazine littéraire Wagon Livre, comme chaque mercredi sur Radion. Une nouvelle invitée ce soir devant notre micro, elle vient de faire paraître son premier roman. Elle s'appelle Sarah Elisabeth. Sarah Elisabeth, bonsoir.
Bonsoir Yannick.
Merci à toi de nous accueillir dans ta maison pour parler de ce roman. Roman qui a un titre latin. Noli me tangere, qui signifie « ne me touche pas ». Mais nous aurons l'occasion, au cours de notre conversation, j'aurai l'occasion de te demander pour quelle raison tu as choisi ce titre. J'en connais déjà les réponses, mais on l'expliquera à celles et ceux qui nous font la gentillesse de nous suivre ce soir. Ce roman, car c'est un roman, met en scène une jeune femme qui te ressemble par certains aspects beaucoup. C'est une fiction, mais on est quand même dans un texte où se mêlent vie familiale, vie amoureuse, tabou, inceste, viol, douleur de l'enfance, père détestable et détesté, une mère en souffrance, beaucoup, et puis la foi et l'espérance, beaucoup d'aspects ressortent de ce roman. Et je vais te demander ce soir, bien sûr, de nous expliquer le sens de ce roman qui est donc aussi très proche du sens de ta propre existence. Ce roman te ressemble?
Oui.
Présente-nous peut-être un peu le point de départ. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie d'évacuer une part de ta jeunesse, de ton enfance, une part de souffrance, une part d'horreur? Qu'est-ce qui t'a poussé? Quel a été l'élément déclencheur qui t'a orienté sur le chemin de l'écriture d'un roman?
Un vrai déclencheur, on n'a jamais. Mais c'est déjà une histoire qui est depuis très longtemps en moi et qui voulait sortir. J'ai déjà essayé à plusieurs reprises de l'écrire sans résultat. Et maintenant, j'ai entendu un appel, écris ce livre. Tu parles du mot évacuation, évacuer. C'est vrai, mais c'est pas que ça. Cette histoire a mijoté des années et des années. Et pourquoi je l'ai écrit maintenant? D'abord parce que c'est le temps pour l'écrire. Et deuxièmement, parce qu'une souffrance, il ne faut pas le garder pour soi. Tant qu'on garde la souffrance, on ne peut pas vivre pleinement. On a du mal, on a de... Oui, la tristesse, toutes les choses négatives, en fait, qu'on connaît tous. Tant qu'on ne les a pas travaillées, ça reste en nous. Et ça mène vers une construction d'un caractère, d'un comportement qui n'est pas toujours compréhensible pour les autres. Pour soi-même non plus, d'ailleurs. Donc, j'ai voulu évacuer, comme tu dis. Pour moi, ce n'était pas un sentiment d'évacuation d'écrire ce roman. J'ai voulu l'écrire pour que le... Je ne trouve pas le mot en français. Pardon. Que les gens qui souffrent, les victimes de n'importe lequel genre, osent ouvrir leur bouche pour faire connaître au monde la souffrance qui est très souvent cachée.
Parce qu'on est, on est dans l'interdit, dans un sujet tabou qui est quand même une relation incestueuse, et le viol d'une petite fille par son père.
Oui, tu vas juste un peu trop vite, tu voulais dire, la première phrase du livre est « Que le monde sache et comprenne ». Et c'est ça que j'avais voulu faire avec ce livre. Quand on comprend l'autre, quand on sait d'abord l'histoire de l'autre, on peut arriver à comprendre l'autre. Quand on ne sait pas l'histoire de l'autre, on le juge. Toi et moi et tout le monde, on fait tous pareil. Donc, tant que l'histoire n'est pas connue, on ne peut pas agir. Et quand on garde les souffrances pour soi, ça peut être 30, 40 ans plus tard que ça sort avec une grande violence et que la personne même, ni son entourage, ni la société, sait de quoi en faire. Donc en fait, je fais un appel à tout le monde qui souffre, parle de ta souffrance. N'importe lequel genre de souffrance, tant que tu en parles, tant que les autres écoutent, il y peut être une solution. Il y a des solutions. Il y a des solutions pour nous tous, pour tout le monde. C'est ça que je veux avec ce livre.
Est-ce à dire, Sarah-Elisabeth, que tu encouragerais d'autres femmes qui, comme ton héroïne, qui, comme toi, ont connu une plaie, une blessure profonde qui ne s'est pas cicatrisée? Est-ce que tu les encourages, elles aussi, à s'exprimer, et notamment par le biais de l'écriture?
Oui. Oui, par tous les biais possibles, parce que n'importe le genre de l'expression, tant que ça sort, c'est bien. Et tant que ça peut aider des autres, parce que chaque histoire, celle du voisin, peu importe. Nous avons tous notre histoire et ça peut améliorer le monde. Ça peut...
Surtout provoquer une prise de conscience.
Oui, c'est ça que c'est le mot que je cherche, oui. Oui, oui. Donc, comme je viens de dire, quand on est conscient d'une histoire, on juge beaucoup moins. Et quand on juge beaucoup moins, il y a beaucoup plus de la paix entre les gens. Et quand il y a beaucoup, beaucoup plus de la paix entre les gens, il y a aussi beaucoup plus de paix entre des groupes. Et quand... voilà, donc c'est le boule de neige, ça... Tu vois?
Tu évoques la paix, mais l'important aussi, c'est de connaître la paix au fond de soi, la paix intérieure.
Oui.
Et l'héroïne, ton héroïne, recherche beaucoup cette paix. En tout cas, elle a du mal à la trouver, parce que le parcours qui est le sien est un parcours semé d'embûches. Parfois, elle est mal comprise, elle est jugée un peu rapidement. Et puis, on va peut-être rentrer... Dans le vif du sujet, les premières pages du roman racontent une histoire d'amour. Mais pas n'importe quelle histoire d'amour, c'est que notre héroïne tombe amoureuse d'un religieux.
Oui.
Tu es d'accord?
Oui.
Nous sommes
oui.
d'accord. Alors, évidemment, on peut dire, mais cette femme prend un risque terrible parce que aimer un religieux, et le religieux l'aime également, se pose le problème des... Et c'est intéressant en cela, le thème des histoires d'amour impossibles. En tout cas, des histoires d'amour que la société ne peut pas accepter. Des histoires d'amour que la société condamne.
Ce sont deux choses différentes. Parce que tu dis bien que c'est la société qui condamne.
La société ou une certaine morale, morale religieuse.
C'est pareil, mais ce sont les autres qui jugent, qui condamnent. C'est pas Jésus qui nous a interdit de s'aimer l'un l'autre.
Oui, mais alors, attention, Sarah-Elisabeth, là je t'interromps, pardonne-moi, c'est qu'il y a quand même une scène d'amour torride dans le bois, me semble-t-il, où l'héroïne masturbe, donc c'est Bernard, je crois, le religieux.
Oui.
Elle masturbe Bernard, bon, et lui, lui donne du plaisir sexuellement. Là, ce n'est pas un amour pur, un amour chaste, d'affection, d'échange verbal. C'est un amour charnel, c'est un amour qui repose sur une relation sexuelle.
Mais tu sais...
Pose la question, bien sûr, pour te faire réagir.
Je sais bien que ça te plaît et que ça peut plaire aux personnes qui nous écoutent, mais... Qu'est-ce que c'est l'amour? Tu parles d'un amour chaste, d'un amour verbal. Bien sûr, c'est important.
Un amour platonique, un amour des âmes.
Oui, je comprends. Mais c'était un amour des âmes. Ça, à travers de tout le livre, ça revient, ça revient, ça revient. Donc, c'est pas un acte sexuel. Ah non, je bloque dans le mot.
C'est un rapport sexuel, oui.
Non, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Tu sais, je vais t'expliquer quelque chose.
Explique-nous.
Oui.
Et à celles et à ceux qui nous écoutent.
Oui.
Sarah Elisabeth.
Le mot en français est très juste. Le mot s'appelle « faire l'amour ».
Oui.
En anglais, « make love ».
Oui, encore.
Donc, il faut le faire. L'amour ne tombe pas du ciel. Il faut le faire. S'il y a un vrai amour entre deux personnes, comme ce religieux et la femme de mon livre, un vrai amour jusqu'au le plus profond de leur âme, une vraie union entre ces deux personnes-là, ça s'exprime par la sexualité souvent. En plus, c'est environ fait pour.
Alors, on reviendra sur la relation amoureuse qui ouvre le début de ton roman, Noli me tangere, puisqu'il y a effectivement relation amoureuse entre l'héroïne de ton roman et ce religieux. On y reviendra, on va souffler, première étape musicale, avec un chanteur français que tu aimes énormément. Il a créé le Big Bazar, il a aujourd'hui 70 ans, c'est Michel Fugain, et puisqu'on parlait d'amour et que il y a toujours de belles histoires d'amour, eh bien, on écoute une belle histoire, un choix de notre invitée Sarah Elisabeth, que nous retrouverons d'ici quelques minutes avec son premier roman, Noli me tangere, à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radio.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Le midi, ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant. Se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans un jour de chance qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains. Comme on cueille la providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, ils se sont quittés au bord du matin. Sur l'autoroute des vacances, c'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin, saluèrent la Providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui, là où vers le brouillard, elle est descendue là-bas dans le midi.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire.
C'est une romance d'aujourd'hui.
Radios à Auxerre, 95.
Noli Metangere, tel est le titre du premier roman de notre invitée, Sarah Elisabeth, roman que nous découvrons ce soir dans Wagon Livre, un livre très personnel et qui aborde des sujets graves, puisque, effectivement, il y est question d'inceste et de viol à travers la vie de l'héroïne que tu racontes dans ce roman, Sarah Elisabeth. Alors, nous nous sommes quittés juste avant Michel Fugain, en parlant de la conception de l'amour. Tu as parlé de Jésus, on pourrait se dire tout d'un coup, mais qu'est-ce que Jésus vient faire? Alors, il faut dire aussi que tu es une fervente chrétienne, catholique.
Oui, dans le sens propre du mot, chrétienne, oui. J'aime beaucoup Jésus, je ne suis pas mariée avec le pape.
On est d'accord, on est d'accord. L'héroïne a donc une relation amoureuse au début du roman avec Bernard, qui est un membre religieux d'une communauté. Histoire d'amour impossible.
Impossible selon la société, pas impossible selon deux cœurs qui s'aiment et deux âmes qui s'aiment.
On peut dire quand même que ton héroïne éprouve beaucoup de difficultés à trouver l'amour. Même son Jérôme, avec Jérôme, c'est pas si facile que cela. Et en fait, qu'est-ce qui, selon toi, rend si difficile la quête de l'amour chez ton héroïne?
Je peux vous dire que si on est victime d'inceste, à très jeune âge, on ne sait pas qu'est-ce que c'est amour. Donc, cette femme dans le livre, elle cherche l'amour parce qu'au plus profond d'elle-même, elle sait qu'il y a de l'amour. Mais elle n'a pas connu ça dans sa vie. Donc forcément, elle cherche inconsciemment là où il ne faut pas chercher. C'est presque logique qu'elle tombe amoureuse de ce religieux. Oui, c'est presque logique. Elle ne l'a pas fait exprès, lui non plus. Ça, c'est clair, je pense. Hein? Mais elle est violée par son père à très jeune âge et depuis plusieurs années et de façon horrible, vraiment horrible. Ça, on ne souhaite pas à son pire ennemi. Mais elle a vécu ça. Donc, dans un religieux, elle cherche la protection, la sécurité, le bras autour de ses épaules.
L'écoute, une écoute attentive.
Une écoute attentive, le partage de la foi, les conseils qui nous sont donnés dans la Bible de mettre en... de réaliser, de mettre en œuvre.
Mettre en pratique, oui.
Oui, mettre en pratique, c'est le mot. Voilà, donc inconsciemment, elle a trouvé dans cet homme tout ce qu'elle cherchait et tout ce qu'elle avait besoin. Que c'était une relation sexuelle... tous les deux, mais ça est bien marqué dans le livre, tous les deux en ont souffert énormément, et ça a duré des années, la souffrance de cette rencontre, parce que l'un et l'autre savaient bien que c'était impossible de continuer de se voir. Est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que c'est ça que Jésus nous a demandé? Non. Jésus nous appelle à aimer les uns les autres. C'est pas Jésus qui a inventé la chasteté pour les religieux. C'est un pape maintenant le chiffre en français, 1138 ou 39, qui a inventé ça.
Alors, tu parles du pape. Revenons au titre de ton roman. Je crois que le moment est venu d'en parler. Noli m'étant guéri, que l'on traduit par « ne me touche pas », prend tout son sens par rapport aussi au vécu de ton héroïne. « Ne me touche pas », c'est ce que la petite fille peut dire à son père en hurlant « ne me touche pas ».
Oui.
Mais explique-nous pour quelle raison tu as choisi ce titre latin que tu as puisé dans un texte sacré.
Oui, c'est un texte de la Bible. C'est Jésus qui dit ça à Marie-Madeleine au matin du Pâques, dans le jardin, devant le tombeau vide, quand il apparaît à Marie-Madeleine. Donc, le titre vient de la Bible, et tu as raison, ne me touche pas, a plusieurs sens dans ce livre. Noli me tangere, en fait, a deux traductions. Ne me touche pas, et l'autre traduction est ne me retiens pas. Et dans ce livre, il y a donc cette femme qui crie, en fait, la phrase exacte ne paraît pas dans le livre, mais dans toute l'histoire, c'est bien évident qu'elle crie. Ne me touche pas, envers son père, envers les hommes qui l'ont violé dans sa vie. Mais c'est aussi les tabous, entre autres, cet amour, comme tu dis, interdit ou impossible avec ce religieux. C'est un tabou. La société nous implique, nous impose des tabous. On n'a pas le droit d'en parler.
Mais la société impose aussi des lois. Il y a des règles que l'on ne peut pas et que l'on ne doit pas transgresser.
Transgresser ?
C'est-à-dire que ton héroïne, elle est victime de rapports scandaleux que la morale réprouve. Un père n'a pas le droit de violer sa fille. Et on a le sentiment que l'héroïne corrompt le prêtre en lui faisant l'amour et en acceptant qu'il lui fasse l'amour, parce qu'elle n'est pas la seule fautive, le prêtre
Yannick,
aussi est fautif.
Qui a dit que c'est la femme dans mon livre qui corrompre le prêtre? Il n'y a aucune question de ça.
Oui, mais non, c'est l'interprétation que j'en fais.
Oui, c'est ton interprétation, mais ce n'est pas ce que j'ai écrit.
Je suis d'accord.
Mais pourquoi tu le dis alors?
Mais quelque part, elle porte une forme de scandale en elle. Elle a une histoire personnelle douloureuse qui est liée à la transgression d'un interdit, à savoir l'inceste, d'une part. D'autre part, elle aime ce prêtre et quelque part, elle se condamne à être malheureuse puisque leur histoire d'amour ne peut pas être en tout cas reconnue et acceptée par la société et notamment par la communauté religieuse. Donc, elle a un côté un peu diabolique, quand bien même elle est capable d'une grande générosité, elle parcourt des centaines de kilomètres pour venir au chevet de sa mère très gravement malade d'un cancer, et elle jette aussi un regard terrible sur la propre vie de ses parents, qui est un couple un petit peu désastreux, enfin qui n'a pas su s'aimer, qui n'a pas réussi l'amour au sein d'un couple.
Oui, donc là tu dis très bien, les parents n'ont pas su aimer, c'est ça?
Oui.
S'aimer.
Ils n'ont pas su s'aimer, me semble-t-il.
Oui.
En tout cas, c'est ce que l'histoire montre bien.
C'est
à cause de l'alcoolisme et de tas de
vrai,
problèmes.
C'est vrai. Donc, imagine-toi un enfant qui naît dans une telle famille. Comment il ou elle est éduqué?
Absolument.
Sans amour. Donc, la femme dans mon livre, ne connaît pas l'amour. Elle ne corrompt personne. Elle cherche donc ce qu'elle a besoin, comme nous tous cherchons de ce qu'on a besoin. Mais elle ne connaît pas l'amour. Elle n'a jamais su la différence entre la sexualité et l'amour. À l'âge de 3 ans, même pas, elle était violée par son père.
Oui, donc, et dans le roman, tu parles même de viol en groupe.
Oui. Donc, à cet âge hyper jeune, quand on doit se baigner dans un bain d'amour de ses parents, quand tout le monde doit encore être saint et propre et juste, et elle est violée. Elle vit une vie d'adulte sexuelle. Comment veux-tu qu'elle apprend, qu'elle comprend la différence entre la sexualité et l'amour? Toute sa vie, elle était coupée entre la tête et le corps pour survivre. Pour survivre. Son corps, bon, elle dissociait. Dissocier, c'est-à-dire, elle quittait son esprit pour que la souffrance n'était pas faite à son corps, à elle. Donc, comment veux-tu, à l'âge de 3 ans, quand on a violé, pas une seule fois, mais des années, comment veux-tu apprendre l'amour? Et je ne parle pas de la sexualité, mais la petite fille qui est dans le bras de son père, en charité, en amitié, en amour, comme il faut, pour elle, c'était le viol, c'était la sexualité. Donc, pendant toute sa vie, elle n'a pas compris que ce sont deux différentes choses, la sexualité à un côté et l'amour à l'autre côté. Et c'est ça aussi où on... je peux continuer? Où on fait beaucoup d'erreurs dans notre monde. Parce que combien de gens ne savent pas la différence entre la sexualité et l'amour? Et pardon que tu es un homme, mais il y a...
oui, je t'en prie, Sarah-Elisabeth, continue.
Oui.
Donc la différence entre l'amour et la sexualité, ce n'est pas la même chose.
Non, c'est pas la même chose.
Je pense que nous sommes d'accord, oui.
Oui, mais combien d'hommes dans notre société faisons la sexualité en pensant que c'est de l'amour?
On reprendra cette conversation d'ici quelques minutes. Je vous rappelle que vous écoutez Wagon Livre, l'émission littéraire de Radio sur le 90.5, ou en direct via Internet aux quatre coins de l'Europe sur le 3W et même du monde sur le 3W.radion.fr. Sarah-Elisabeth est ce soir devant notre micro pour présenter son premier roman intitulé Nolim et Tangere. Nous nous quittons le temps d'un intermède musical et nous vous proposons d'écouter une chanson en néerlandais que notre invité va nous présenter.
Ça sera le Salve Regina chanté par Gerard van Maasakkers. C'est une chanson que je rappelle dans le livre, qui parle, je le marque dans le livre parce que c'est les parents de la femme aiment tous les deux bien cette chanson et ils se disputent de la volume pour l'écouter. Donc voilà, et la chanson parle d'une pèlerinage d'origine religieuse, bien sûr, sinon c'est pas un pèlerinage, mais dans le temps ça change et les jeunes viennent pour de la musique et pour la bière, et les vieux viennent pour la Vierge Marie. Tous ensemble, ils chantent le Salve Regina.
Op een juni zaterdag volgen ze de moedervlak. Ieder jaar van Valkenswaard naar Handel. Ruim 40 kilometer met zo'n 1000 in totaal. Kinderen van Maria allemaal. Paternoster Prevelaars. Vaders, dochters lopen blaren voor de sport of voor de devotie. Muzikante blazen de meute in de maat voor de kinderen van Maria. Kinderen van Maria, kinderen van Maria, door de straten en ze spelen. Salve, 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 regina. Mieke is er ook weer bij. Miel, Margot en Marij, weldenkende mensen, zou ik zeggen. Toch lopen ze mee, zingen sterren der zee en kinderen van Maria mee. Het jonge spul loopt achteraan voor de huifkarkaravaan. En de discothekenhandel komt al dichterbij. Links en rechts wordt al gesjanst, achter de laatste rozenkrans komen ze voor Maria, voor Ia of Maria, Bavaria of Maria, of allebei, maar ze pralen samen. Ik zie die gezichten allemaal, iedereen zijn verhaal. Schuimend bier of een schietgebedje. En daar gaan de laatste paardenwagens voor de blaren van de kinderen van Maria voorbij. Uren later heb ik nog wel waterogen, kippenvel, dat's wat die bonte bedevaart aanreikt in mijn lijf. Vlag vertoon en marsmuziek, ze wonen niet in mij. En toch denk ik, Maria, wat is dat met Maria? Hoe zit dat met Maria en met mij?
Radion. Radion.
Retour à bord de Wagon Livre ce soir avec notre invitée Sarah Elisabeth, venue nous présenter Noli Me Tangere, son premier roman. Juste avant ce Salve Regina en néerlandais, nous parlions de l'amour. Il en est grandement question dans ton roman, Ne me touche pas. Alors, il faut peut-être qu'on parle un petit peu, bon, tu as parlé de Jésus, de l'amour selon Jésus. L'héroïne est une fervente chrétienne, elle va à Thésée, elle est toujours à la recherche d'un paradis, d'un lieu de paix, de sérénité. Est-ce que tout est cadeau de Dieu? Parce qu'il en est beaucoup question dans le roman. Est-ce que tout est cadeau de Dieu?
Le bien et le mal, tu veux dire?
Oui. Enfin, le mal n'est pas cadeau de Dieu, je ne pense pas.
Ben oui, donc tu réponds à ta propre question.
Dieu est amour, mais ben oui. Tout est cadeau de Dieu, alors. Sauf le mal.
Je pense que ce sont nous, les êtres humains, qui font du mal. Jésus n'a jamais fait du mal à personne.
Ce qui surprend, je cite un extrait du roman. Donc, l'héroïne dit « Quand j'étais penchée en avant, je sentais la main de Jésus se poser sur mon épaule. Il tissait un cocon de sécurité autour de moi. Toute ma vie, je cherchais cette sécurité, cette protection, cette confiance. On a l'impression, l'héroïne parfois a comme des visions. Il est même question d'un personnage qui voit les auras. Il y a une croyance qui s'accompagne de visions, un peu comme certaines saintes sont capables ou ont été capables d'en avoir dans l'histoire religieuse.
C'est vrai, et ça n'est pas marqué dans le livre, mais il y a des gens que la femme a rencontrés dans sa vie qui l'appellent une sainte, oui.
Ben, une sainte qui fait l'amour avec un religieux.
Ah oui. C'est pas trop mal, ça.
Alors, il est beaucoup question de lumière, il est beaucoup question de clarté, parce qu'il est clair que l'enfer, l'horreur que l'héroïne enfant a connue, s'apparente aux ténèbres, à l'obscurité. Et effectivement, la quête de la foi, c'est la quête d'une espérance, et c'est toujours aussi une sorte de chemin qui mène peut-être dans un tunnel obscur, mais au bout du tunnel, il y a la clarté, il y a la lumière. Et le thème de la lumière est très important. D'ailleurs, sur la couverture du livre, il est écrit aussi « Édition de la lumière ».
Oui, le thème de la lumière est très important. Si on ne voit pas la lumière au bout du tunnel, pourquoi on vit alors? Quand on n'a plus l'espoir, l'espérance, la confiance aussi, que la foi donc, que la vie peut s'améliorer, qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, cette quête de l'amour, de la lumière, d'être entendue, d'être comprise, cette quête est toujours là. Et la lumière pour cette femme est hyper importante. Sinon, si, encore une fois, sans ça, elle ne peut pas vivre, mais je pense que c'est valable pour nous tous.
Mais est-ce que la foi aide à vivre? Ça, nous l'avons bien compris. Mais est-ce que la foi aide à mourir? Est-ce qu'elle permet de mieux accepter sa propre mort? Je parle de la mort parce qu'il y a la mort de la mère.
La mère, oui, mais il n'y a pas d'autres morts dans le livre. Donc, je ne peux pas parler ce que la mère a senti, bien sûr. Mais pour moi, personnellement, c'est la seule réponse que j'ai. J'espère, au moment de ma mort, que ça sera plus facile, oui. Parce que quand on sait où on va, on n'a pas à avoir peur pour y aller. Tu comprends?
Je comprends. Ce que j'ai noté dans ton roman, Sarah Elisabeth, c'est que les hommes n'avaient pas vraiment le beau rôle. L'héroïne a été mariée, donc elle ne parle pas spécialement de ses maris, enfin elle n'en parle pas beaucoup, mais les maris ne sont pas évoqués de manière très laudative, très valorisante. Le père de l'héroïne semble être un homme violent, sectaire, sans cœur surtout. Et puis il y a le frère de l'héroïne, qui lui aussi est un personnage plus qu'inquiétant, au point que l'héroïne est contrainte de faire appel à la police à un moment dans le roman, parce qu'elle se sent menacée, ouais. Puisque le frère la menace de mort.
Oui. Donc, qu'est-ce qui est ta question?
La question, c'est justement, les hommes ont le mauvais rôle, mais justement, les figures masculines du roman, ouais, sont toutes des figures négatives. Et ces figures négatives, tu les as connues toi-même.
Oui. Oui, et j'aurais bien voulu. Donc, ça est un appel à tous les auditeurs et pas forcément aux auditrices. Je rigole, je fais une blague, je fais appel à tous les auditeurs. S'il y existe des hommes bien,
envoyez-les à Sarah Elisabeth.
C'est ça ce que je voulais dire. Donc, pourquoi les hommes dans ce livre ont un mauvais rôle? Malheureusement, parce que ces hommes-là avaient ces comportements. Là, je n'ai pas grand-chose à inventer. Donc, Tout à l'heure, tu m'as demandé à quoi je fais appel. Bon, je fais appel aux hommes d'être plus prudents avec la femme, les femmes en général. Maintenant, je vais dire quelque chose qui peut-être ne plaît pas à tout le monde. Question, c'est juste une philosophie. Si les hommes, dans notre société, voilà, si les hommes n'ont plus des maîtresses et qu'ils mettent toute leur énergie et tout leur amour dans leur propre famille avec leur propre femme et leurs propres enfants, la famille sera beaucoup plus heureuse. Je pense que ça peut être un pas en avant vers la paix aussi. Les hommes, dans la vie de cette femme, mais aussi dans ma propre vie, suivent leur instinct, suivent leur, pardon pour le mot, leur pénis, et souvent ils ne regardent pas ce que la femme veut vraiment. Souvent ils font l'acte, ils font la sexualité sans se demander si la femme a envie de le faire. Mais ils n'acceptent pas non plus que la femme dise non. Les femmes disent non. Donc voilà, toujours je voulais dire, mais ok, je me retiens un peu. Très souvent, les hommes dominent dans la sexualité. Et tant qu'il y a question d'une domination, il n'y a donc pas question d'égalité. Il n'y a donc pas question de respect. Il y a donc une victime. Et ça fait mal.
Alors, sur ces paroles graves, on va marquer un temps de pause. Là aussi, Sarah-Elisabeth, que nous proposes-tu d'entendre ?
La chanson s'appelle « Bleif mein Abei », chantée par Remco Hackert. C'est la chanson que la femme dans mon livre chante pour sa mère quand sa mère est en coma. Le titre et le refrain dit en fait Jésus ou Dieu, reste avec moi même dans mes ténèbres, reste toujours, toujours, toujours avec moi. Parce que j'en ai besoin de toi.
Blijf mijn
hear you cries. Hoch vor mein brekend oog. Licht in het duister, wijs de weg omhoog. Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. In dood en leven, Heer, wees gij
Radion 03 86 46 50 50 Radion.
Noli Metangere, ne me touche pas, tel est le titre du roman de notre invité ce soir devant le micro de Wagon Livre, Sarah Elisabeth, qui est toujours en notre compagnie. Question un peu rude, un peu abrupte. Nous avons dit tout au long de cette émission que ce roman racontait le terrible drame d'une femme qui avait été violée dans son enfance et qui donc avait subi des rapports incestueux de la part de son père. Il n'y a pas de page très développée sur ces images terribles du viol. Alors je sais, c'est délicat de te soumettre cette question. Tu t'es auto-censuré, tu n'as pas voulu revenir sur des visions terribles.
Ce n'est pas une question de ne pas vouloir revenir sur des souvenirs terribles. C'est une question que, d'abord, je me demande si ça plaît au lecteur. Deuxièmement, je ne veux pas réveiller des idées mauvaises à répéter, parce que c'est bien volontairement que je n'ai pas mis les actes de viol dans le livre. D'abord, ça ne regarde personne. C'est le mal, c'est la souffrance que j'avais voulu exprimer. Parce que décrire un acte d'inceste, de viol, je suis bien capable de le faire. Vraiment très bien capable de le faire. Mais ça ne rend personne heureux. Vraiment personne. Parce que si moi je l'écris, ça fait du mal parce que je réveille les mauvais souvenirs. Si quelqu'un d'autre, une femme, le lit, ça réveille ses souvenirs qu'elle a cachés. Et si un homme le lit, je peux lui donner des idées. Et ça est vraiment, vraiment, vraiment la dernière chose que je veux. Donc, c'est volontairement que c'est pas marqué dans le livre. C'est pas un. Déjà, le fait que ça a eu lieu, c'est une horreur. C'est pas la peine de décrire des horreurs dans, comme ça. Ce n'était pas le but de mon livre. J'ai voulu écrire l'histoire, la souffrance de cette femme, les conséquences à long terme de son inceste, de sa vie incestueuse, les autres qui ne la comprennent pas trop bien, qui ne comprennent pas cette femme, son caractère, ses comportements. C'est pas la peine d'écrire jusqu'en détail comment ça se passe. Imaginez-vous, tous les auditeurs et auditrices, le pire que vous pouvez vous imaginer, ça est juste une petite fraction de ce qui est arrivé à cette personne dans mon livre. Vous ne pouvez pas vous imaginer. À toi.
En revanche, Ce qui peut peut-être surprendre pour un lecteur masculin, c'est que tu parles de la féminité et de choses très intimes, très, très intimes chez ton héroïne, notamment le début de ses règles. Tu parles de son ovaire droit qui lui provoque des douleurs. Il y a une certaine crudité dans l'évocation des choses intimes. Si le viol n'est pas raconté, il y a des séances chez le gynécologue qui sont racontées. Alors, il y en a même une qui est un petit peu amusante, c'est que... enfin, amusante, qui prête à sourire parce que...
Vas-y, alors.
Parce que la narratrice explique que le siège ou la chaise sur laquelle on s'assied aux Pays-Bas ou en France, dans un cabinet de gynécologue, n'a pas la même configuration.
Non.
Les séances de gynécologie ne sont pas les mêmes en France qu'aux Pays-Bas.
Non.
Cela fait un peu sourire. En revanche, les rapports, on voit bien que l'acte médical est très, très difficile et très, très douloureux pour l'héroïne. Il est quand même question, là par exemple, ça m'a puissamment interpellé, c'est à la page 238 du roman Noli me tangere. Tu dis quand même que l'héroïne se rappelle, au moment où elle est chez le gynécologue, de certains épisodes qu'elle a vécu avec son père qui lui grattait l'utérus avec un rasoir de marque Gillette. C'est un peu... C'est bouleversant, ça.
Bah, je n'ai rien contre la marque Gillette.
Oui.
Bon...
Ça, c'est terrible.
Oui, c'est terrible. C'est terrible. Donc, tu ne me poses pas une question.
Non, je ne pose pas de question.
Non.
Et d'ailleurs, ton héroïne dit que chanter apporte toujours du bien. Mais je propose justement une chanson. Chanson d'une femme, une chanteuse française que tu aimes beaucoup. C'est Edith Piaf. Je rappelle d'ailleurs que l'année prochaine, on commémorera le 50e anniversaire de la mort d'Edith Piaf. Elle est morte en octobre 1963. Mais tout de suite, voici Celui que mon cœur a choisi par la Môme Piaf sur Radion.
Je m'en rappelle plus comment qu'on s'était rencontrés. Je ne sais plus si c'est lui qui a parlé le premier, ou bien si c'était moi qui avais fait les avances. Ça n'a pas d'importance. Tout ce que je veux me rappeler, c'est lui que mon cœur a choisi. Et quand il me tient contre lui, dans ses yeux caressants, je vois le ciel qui fout le camp. C'est beau, c'est épatant. Il a pas besoin de parler, il a rien qu'à me regarder. Et je suis à sa merci, je ne peux rien contre lui, car mon cœur l'a choisi. Je ne sais pas s'il est riche, il a des défauts, mais de l'aimer comme je l'aime, un homme est toujours beau. Et quand on va danser, qu'il pose sur mes hanches ses belles mains si blanches, ça me fait froid dans le dos. C'est lui que mon cœur a choisi. Et quand il me tient contre lui, dans ses yeux caressants, je vois le ciel qui fout le camp. C'est beau, c'est épatant. Il a pas besoin de parler, il a rien qu'à me regarder. Et je suis à sa merci, je ne peux rien contre lui, car mon cœur l'a choisi. Je sais pas ce qui m'arrivera si ça durera longtemps, mais je me fiche du plus tard, je veux penser qu'au présent. En tout cas, il m'a dit qu'il m'aimerait toute la vie, que la vie sera jolie s'il m'aime pour tout le temps. C'est lui que mon cœur a choisi. Et quand il me tient contre lui, dans ses les yeux caressants, je vois le ciel qui fout le camp, c'est bon, c'est épatant. Ah, il a pas besoin de parler, il a rien qu'à me regarder, et je suis à sa merci, je ne peux rien contre lui, car mon cœur l'a choisi.
Les années 80 à aujourd'hui, radionne toutes vos chansons préférées.
Le temps passe vite à bord de Wagon Livre avec Sarah Elisabeth. Sarah Elisabeth, le moment est venu presque de se quitter, mais avant de nous séparer et de laisser la place au programme musical de la nuit sur Radion, je voudrais te poser une question directe. Sarah Elisabeth est-elle aujourd'hui une femme heureuse ?
Oui. Elle est une femme heureuse. Et la prochaine question sera sans doute comment et pourquoi.
Oui.
Oui.
Merci. Je m'économise ainsi.
Oui, oui. Parce qu'elle a sa foi. Parce qu'elle est une combattante qui continue à chercher une meilleure vie. Elle garde son espérance qu'une meilleure vie est possible pour elle-même, pour la femme de son livre, mais pour tous les autres aussi. Quand on se bat, on obtiendra. Elle peut dire qu'elle est heureuse, oui.
Alors on a parlé inceste, viol, viol en groupe, souffrance, douleur, traumatisme, peut-être...
Tabou, oui.
Tabou, interdit, condamnation morale, etc. Peut-être pourrais-tu... terminer l'émission avec une parole encourageante et positive.
Bien sûr, il y a toujours des paroles encourageantes et positives. Oui. La chose que j'aimerais dire...
Un message, peut-être.
Un message, oui. Le plus beau principe de l'amour, de la paix et du bonheur est plus on en donne... plus on en reçoit. Et ça, sans cesse. Et ça, je trouve vraiment magnifique. Plus qu'on en donne, plus qu'on en reçoit. Oui. Oui. J'ai parlé de plein de tabous dans le livre, plein d'interdits. Mais il y a de l'amour, de la paix, du bonheur pour nous tous. Voilà.
Bonsoir Sarah Elisabeth, merci d'avoir été notre invitée ce soir. Je rappelle le titre de ton roman, premier roman, Noli me tangere, ne me touche pas, aux éditions de la Lumière. Roman qu'on va très rapidement commencer à voir un peu partout, présent chez les libraires, dans le département et ailleurs. Je rappelle que l'émission sera mise en ligne sur le site internet de Radion d'ici quelques jours. On donnera alors le mail de Sarah Elisabeth et d'autres informations pour se procurer le livre. Et puis vous pouvez toujours, bien sûr, nous contacter. On vous donnera les informations utiles pour se procurer Noli me tangere. Au revoir Sarah Elisabeth.
Au revoir Yannick.
Je vous donne rendez-vous mercredi 27 juin prochain à 21h pour un nouveau numéro de Wagon Livre, un numéro entièrement consacré à l'écrivain Georges Bataille, disparu il y a 50 ans en juillet 1962. Notre invité sera Christian Limousin, grand lecteur de Bataille, ancien professeur de lettres et cofondateur du collectif Lire Bataille 2012. Il nous fera découvrir ou redécouvrir la vie est l'œuvre de cet écrivain subversif et scandaleux qui travailla et vécut à Vézelay où il est enterré. Juste avant de nous quitter, je voudrais ce soir rendre hommage au journaliste sportif Thierry Roland, disparu samedi dernier à l'âge de 74 ans. J'avais eu le plaisir de l'interviewer en avril 2011 à la fête du livre d'Autun et sa mort nous donne l'occasion de réentendre un extrait de cet entretien qui avait été diffusé sur Radion dans Wagon Livre. Adieu Thierry Roland.
Je dirais que personne n'est parfait. Alors, non, mais je crois que, vous savez, chacun a les passions qu'il veut dans l'existence. Et bon, certains le sport et le football, dont la peinture, la philatélie, la sculpture, que sais-je, la pêche, la chasse. Chacun fait ce qu'il veut, mais il y a effectivement dans notre bel et beau pays de France beaucoup de gens qui aiment et qui se passionnent pour le football.
Et Thierry Roland, hormis le football, il y a forcément d'autres, éléments qui vous séduisent attirent.
Bien sûr, bien sûr.
Quels sont-ils, si ce n'est pas indiscret ?
Moi, puisque je suis dans une région qui en fait du très bon, j'aime beaucoup le bon vin, par exemple. J'aime beaucoup un bon repas, j'aime bien une bonne pièce de théâtre, aller au cinéma, j'aime bien une réunion entre amis. J'ai beaucoup de points d'intérêt.
Alors, vous êtes ici à la 14e fête du livre d'Autun avec votre ouvrage, mais 13 Coupes du Monde aux éditions du Rocher. 13 Coupes du Monde, toujours le même attachement, la même passion sur les joueurs dans un univers du football un peu douteux.
Oui, qui a changé. Mais je crois que le jeu est resté pour moi une grande passion. Je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Pourtant, je suis pas venu au monde dans une famille sportive. Mes parents n'étaient pas des grands spécialistes du sport, mais bon, moi ça a été ma passion. Et j'ai coutume de dire que, en fait, je crois que j'ai appris à lire en lisant l'équipe, quoi, vous voyez. Et ça a fait que j'ai eu la grande chance, parce que je dis que c'est toujours un grand cadeau du bon Dieu, de faire de ma passion mon métier.
C'était Thierry Roland, en avril 2011, à la 14e fête du livre d'Autun. Petit hommage que nous souhaitions lui rendre ce soir, avant de vous laisser en compagnie du programme musical de Radio. Rendez-vous mercredi prochain, 27 juin, pour une émission consacrée à Georges Bataille. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Au revoir.